Europe 1. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelatte reçoit un invité, acteur direct de son récit.
Je vous ai raconté l'histoire de Giuliano Verbar, un jeune gourou d'une secte de la Réunion, qui prétendait que la Vierge apparaissait dans un cocotier de son jardin et qui en a profité pour violer les enfants de son groupe de prière. Histoire que je débriefe avec vous, maître Laurent Payen du barreau de Saint-Denis de la Réunion. Vous étiez dans ce dossier l'avocat du jeune Alexandre, dont je rappelle que j'ai choisi de ne pas donner le nom, puisque la loi nous l'interdit. Petite question technique, vous savez pourquoi il n'a pas obtenu la confusion totale de ses peines? Parce que donc, en toute logique, la plus grande de 18 ans devait engloutir toutes les autres.
Oui, alors ça, je saurais difficilement vous dire, hein, puisque en tant que partie civile, on n'a pas accès à, alors aujourd'hui un petit peu plus, mais à la procédure d'aménagement de peine. Donc ça reste quelque chose qui est un petit peu mystérieux, mais enfin, bon, vu le profil de l'individu et le nombre de peines qu'il avait à purger, c'est quand même assez logique.
Alors, le cas du petit Alexandre que vous défendez dans cette affaire, il ne va pas jusqu'au bout avec lui. Il l'enlève deux fois et il ne le touche pas. Pourquoi, à votre avis?
C'est assez difficile à dire parce que bon, lui aussi était présenté comme son digne successeur en quelque sorte, mais il n'en a peut-être pas eu le temps, hein, tout simplement, puisque la première fois, il n'est resté que quelques heures au sein de la communauté. Et dans le second épisode, l'épisode a été très très mouvementé. Et là aussi, je pense qu'il n'a pas eu le temps de se livrer à des actes répréhensibles sur ce petit garçon. Ou alors, il y a peut-être une raison pour laquelle... psychologiquement, il ne voulait pas le faire. Peut-être qu'il considérait qu'effectivement, c'était l'élu, comme il l'appelait, au sein de la communauté.
Quel est le vrai rôle de Fabrice Michel dans cette affaire? Parce que tel que je le raconte, on sent un suiveur un peu effacé, mais en vérité, je ne suis pas sûr.
Non, il avait même un rôle assez actif, hein. C'était quelque part la cheville ouvrière, le comparse de Verbar qui exécutait un petit peu les bases œuvres de ce dernier, hein, et dès lors qu'il était en cavale, c'était Fabrice Michel qui tirait un petit peu les ficelles de la communauté.
Et les 17 autres alors, qui sont eux aussi sur le banc des accusés, qu'est-ce qu'ils disent? Comment ils se comportent? Ils les ont lâchés tous les deux?
Ah non, tout au long du procès, au contraire, hein, ils l'ont toujours soutenu. Alors c'est vrai que c'était un petit peu hallucinant, parce que c'est un personnage, quand on le voit en réalité, qui est assez anodin, hein, finalement. On s'attendait à un personnage charismatique.
Il n'a pas de charisme.
Enfin, moi, personnellement, j'en ai pas trouvé. Alors, c'est vrai qu'il a des yeux un petit peu bizarres, un petit peu hypnotiques, on va dire. Mais après, le personnage lui-même, c'est vrai qu'on ne comprend pas comment des gens, parfois, dans des milieux sociaux assez élevés, avaient pu se laisser embrigader par cet individu. Hein. Mais même au sein du procès, c'était encore une réalité, puisqu'à un moment donné, on a vécu une scène un petit peu hallucinante, effectivement, où au moment où le président les renvoie à la geôle au moment d'une interruption, on voit un des adeptes qui va lui embrasser la main, enfin la bague qu'il a au doigt, comme on le fait avec un évêque. Donc on voit qu'il a encore une emprise totale sur les personnes qui sont dans le box à ses côtés.
Je vous pose maintenant la question. Est-ce qu'à votre avis, Verbar ment quand il prétend voir la Vierge dans le cocotier? Ou est-ce qu'il la voit sincèrement et profite juste de l'occasion pour violer les petits garçons?
Ah, si vous voulez mon avis objectif, hein, ça m'étonnerait qu'il ait vu la Vierge dans ce cocotier. Et d'ailleurs, personne n'a jamais dit l'avoir vu, hein. Malgré l'emprise qu'il avait sur ses adeptes, personne n'a eu même une simple hallucination, une croyance d'avoir vu cette Vierge. Il n'y a que lui qui a toujours dit qu'il avait cette vision. Alors, est-ce qu'il y croyait ou pas? Bon, c'est vrai qu'il avait un passé religieux un petit peu particulier, une psychologie tout à fait particulière, mais bon, je pense que c'était là de la manipulation. Et d'ailleurs, les experts qui ont eu à l'examiner ont bien dit qu'il était à la fois mythomane et à la fois manipulateur. Et je pense que c'est de la pure manipulation, qu'il n'a jamais rien vu ni cru voir, mais que au travers de ces années, comme vous le rappeliez tout à l'heure, hein, dès tout petit, il faisait la messe dans la cour de l'école et il a dû s'apercevoir que ça lui donnait une certaine emprise sur les personnes qu'il avait autour de lui et il en a tout simplement profité.
Quand vous le voyez au procès, est-ce qu'il a l'air d'un fou?
Ah non, on peut pas dire un fou, hein. C'est quelqu'un qui s'exprime correctement, qui a des propos sensés, on va dire, dans ce qu'il exprime.
Non, il est rationnel ou irrationnel?
on va pas dire rationnel, ça serait quand même pas le mot adapté. Il peut avoir un discours tout à fait adapté à un moment donné, et après tenir des paroles qui sont décrochées de la réalité. Mais bon, c'est le propre du personnage, on va dire.
La question de son équilibre psychiatrique a été posée.
Oui, oui, tout à fait. Alors bon, les analyses de mémoire qui avaient été faites par les experts, à part voilà ces versants, on va dire, un petit peu psychopathiques, avec des tendances mythomaniaques, des tendances à la fabulation, à la manipulation, mais ça n'est pas un fou. Hein. Et d'ailleurs, il n'a bénéficié d'aucune excuse au sens pénal sur les expertises qui ont été faites de lui. Et il y en a eu, puisqu'il a eu plusieurs procès et donc plusieurs expertises de ce type à subir.
Alors, il faudrait peut-être qu'on resitue tout ça dans le contexte particulier de la Réunion. Il y a à la Réunion une sorte de fourmillement religieux qui peut peut-être expliquer l'adhésion assez facile des gens à tout ce qu'ils racontent.
Ah, oui, on a à la Réunion un cadre assez propice, hein, puisqu'il y a effectivement beaucoup de mouvements religieux au-delà des églises classiques. Hein. On a un certain nombre d'églises parallèles, on va dire, avec des gens qui ont des croyances très variées. Hein. Vous savez que la Réunion est multiculturelle, des hindous, des catholiques, enfin, il y a toutes les sortes de religions sont représentées. Et puis, il y a des croyances aussi un petit peu mystiques. Sur le bord de route, vous allez trouver des petits hôtels dédiés à Saint-Expédite ou toutes sortes de choses qui expriment des croyances qui sont très ancrées dans la population. Donc, effectivement, ça facilite hein, le développement et puis l'assise de ce genre de personnage. Et on voit, quand il faisait ses messes où il disait voir la Vierge, il y avait des queues entières sur le trottoir pour se rendre à ces cérémonies, entre guillemets. Donc oui, il y a un terreau tout à fait propice à la Réunion.
Les parents d'Alexandre, ils faisaient partie de la communauté ?
Ah non, pas du tout. Hein. Les parents eux-mêmes n'étaient pas très très religieux. Par contre, autour d'eux, notamment l'oncle et la tante dont vous avez parlé, étaient plus religieux, et il y avait effectivement des contacts entre eux et Giuliano Verbar et tout son entourage. Enfin, surtout l'entourage, et notamment Guillaume Maillot, que vous avez cité également tout à l'heure. Après, ils n'étaient pas embrigadés, on va dire, dans la secte, ils n'étaient pas quand même au point d'autres adeptes, mais il y avait une proximité aussi qui a créé cette situation. Ouais.
Alors, comme explication au moment de son arrestation, il dit « Moi aussi, j'ai été violé par mon frère, dont il dit d'ailleurs qu'il était alcoolique, et par un curé. Vous croyez ça ?»
Écoutez, après, devant les cours d'assises, souvent les gens qui se livrent à ce genre d'actes ont eux-mêmes des passés de victimes. Hein. C'est quelque chose qui, malheureusement, est assez récurrent et courant. Après, dans les dossiers qui l'intéressent, alors moi, je n'étais pas dans le dossier où il était accusé de viol et d'agression sexuelle, mais je ne pense pas qu'il y ait eu quelque chose de tangible qui ait été établi par rapport à ça.
Puisqu'il est machiavélique, il peut l'avoir inventé, quoi.
Hein. Ah oui, tout à fait. Hein, oui. Bon, il est capable, voilà, il est quand même capable de tout. Hein, donc, utiliser des faux fuyants de ce type, c'était tout à fait possible avec sa personnalité. Après, peut-être qu'il y avait une part de vérité dans tout ça. Ça, on ne saura jamais. En tout cas, on ne le sait pas alors qu'il est.
Est-ce que vous savez ce que sont devenus les adeptes ? Est-ce qu'ils croient encore en lui ? Est-ce qu'ils croient encore aux apparitions dans le cocotier ? Ou est-ce qu'ils sont passés à autre chose ?
Bah écoutez, après, vous savez, quand le procès se termine, hein, on ne sait pas trop ce que deviennent les uns et les autres. Hein. En tout cas, on n'entend personne qui aurait repris ce mouvement à la suite de Giuliano Verbar. Bon, après, il y a toute sa petite histoire en prison, son mariage, etc. Mais après, au niveau des adeptes, non, on n'a pas d'informations sur ce qu'ils sont devenus. Mais enfin, ils étaient tellement ancrés dans les croyances qu'il y a quand même des chances que certains soient susceptibles d'y être encore, peut-être pour d'autres personnages de ce type.
Vous êtes toujours en lien avec le petit Alexandre ?
On a eu quelques contacts, effectivement. Il a bien grandi depuis. C'est un jeune homme qui a cette histoire très, très particulière, mais qui a su évoluer aussi positivement. Il a bien été entouré par ses parents. Ils sont repartis en métropole. Et bon, moi, la dernière fois que j'avais eu des nouvelles de lui, il avait l'air épanoui. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même des histoires qui marquent profondément. Hein, donc, il en restera certainement toujours quelque chose dans sa vie.
Oui, être enlevé deux fois à l'âge de 12 ans, effectivement. Je vous remercie infiniment, Maître Laurent Payen, du barreau de Saint-Denis de la Réunion.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.